Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin.
Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler de mode, de prêt-à-porter, mais pas seulement, bien sûr, vous allez voir. Michèle Célestin est mon invitée aujourd'hui et elle a plein de richesses à nous dévoiler aujourd'hui. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation dans Portrait. Alors, vous avez une boutique de vêtements de créateurs et de créatrices au Havre. Une boutique qui s'appelle Tikeli, qui signifie son petit chez elle, c'est ça?
C'est exactement ça.
En créole?
En créole. Créole de la Martinique.
Ça nous emmène directement sur votre île. Bien que vous soyez née à Paris, votre cœur est quand même beaucoup à la Martinique. D'ailleurs, en témoignent toutes sortes de choses que vous nous avez apportées, puisque dans cette émission, les invités choisissent des photos, des objets, des senteurs qui vont emmener les auditeurs sur le chemin de leur vie.
Déjà, merci de m'avoir invitée. Et effectivement, mon cœur balance entre la chaleur des Antilles et, comment dirais, et le froid de Paris.
Alors, moi j'ai envie de démarrer tout de suite avec cette première senteur à laquelle tout le monde s'attend dans les auditeurs ici. Sauf que c'est une raison bien particulière, vous avez choisi ce petit bâton de cannelle parce qu'il évoque plein de choses différentes pour vous.
Oui, le bâton de cannelle, ça évoque mon pays d'origine, la Martinique. Ça évoque ma famille, ça évoque toutes les sensations que j'ai quand je pose le pied sur cette île. C'est chargé d'histoire, c'est mon histoire et c'est vrai qu'à chaque fois que je respire un bâton de cannelle, voilà, ça me transporte en fait, ça me fait du bien.
Ce sont les gâteaux qu'on fait, que faisait, je sais pas, votre grand-mère ou quelqu'un de proche.
C'est ça, les gâteaux, les boissons aussi. D'ailleurs, quand je suis nostalgique, je fais régulièrement du planteur.
Oh là là, un petit punch.
Voilà, dans lequel je mets de la cannelle, de la muscade, enfin des épices. Ça me fait du bien.
Et puis la cannelle, eh bien, c'est aussi la création. Alors c'est là, ça. C'est un peu plus surprenant, parce qu'en fait, et c'est de ça dont on va parler beaucoup, on va parler de mode évidemment, mais on va surtout parler de création et de choses subtiles que vous appréciez particulièrement. Des créations, par exemple, là, de l'artisanat que vous faites avec ces petits bâtons de cannelle.
C'est ça, de temps en temps, j'inclus des petits morceaux de cannelle dans des mobiles en fait, que je réalise en origami. J'aime beaucoup l'origami, le pliage du papier, j'aime travailler les beaux papiers, alors parfois de récup et souvent du papier de galerie. En fait, je m'approvisionne.
Qu'est-ce que c'est du papier de galerie?
En fait, du papier que j'achète en galerie, tout simplement.
Voilà. D'accord, du papier, donc du papier de reliure ou de choses comme ça.
C'est ça, du papier népalais par exemple, où j'aime bien voir les nervures en fait en transparence. J'aime beaucoup ces papiers. Et puis, comme je disais, voilà, des papiers aussi que je trouve, que je garde, et puis voilà, pour réaliser mes créations. Et donc, parfois, j'inclus des petits morceaux de cannelle dedans.
Alors, une autre création que vous avez apportée ici, c'est ce petit photophore avec une incrustation de papier par-dessus le pot. Il contient évidemment une bougie, comme tous les photophores. Il y a une petite cordelette qui décore le sommet de ce photophore. En fait, ce photophore, il a quelque chose de très symbolique, finalement, parce que vous vous êtes réfugié dans la création. Alors que vous aviez été licencié suite à du harcèlement qui a duré pendant 5 ans.
Tout à fait. Ça a été une période très, très compliquée dans ma vie professionnelle. Parce que cette situation de harcèlement, alors je mets un mot dessus, mais quand j'ai été victime de ça, je ne savais pas que ça s'appelait du harcèlement.
C'était une femme qui était votre chef et vous étiez conseillère en insertion.
C'est ça.
Ça peut arriver donc dans tous les domaines.
Dans tous les domaines.
Et ça se traduisait comment?
Alors, c'était très insidieux. C'était du dénigrement auprès des institutions avec lesquelles je travaillais.
Comme si vous n'étiez pas capable de faire.
Voilà, en fait, c'est ça. Et puis, du sabotage aussi de mon travail. Donc, que ce soit dans les dossiers ou avec les gens que j'accompagnais.
Et du coup, elle avait réussi aussi, parce que vous m'avez dit qu'une personne qui harcèle n'est jamais seule et qu'elle se constitue une sorte de petit groupe, et c'était parmi vos collègues.
C'est ça, elle a besoin, une personne qui harcèle a besoin de bras armés en fait, puisque l'idée c'est qu'elle ne soit jamais soupçonnée d'harceler ou d'avoir de mauvais comportements, donc forcément ce sont des personnes, en l'occurrence elle, cette personne qui aimait se victimiser en fait. Et me faire passer pour
la méchante.
La méchante, le monstre de service. Et donc voilà, ce sont c'est propre au harcèlement en fait. Ce sont des petits actes qui se répètent, qui forment cette situation de harcèlement.
Et qui font que lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vidé, au bord des larmes. Et ça, c'est tous les jours.
Ça devient, là où c'est grave, c'est que vous perdez complètement confiance en vous. Puisque vous
on va en reparler plus tard parce que c'était déjà votre point faible à l'époque.
C'était mon point faible.
Elle a su aller là où c'était difficile.
C'est ça. Et en fait, n'importe qui ne se fait pas harceler, il faut le savoir. Les personnes harcelées sont souvent des personnes qui représentent, comme c'était mon cas, un manque de confiance. Qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, ce sont des personnes qui sont... en général, dans le cadre du travail, qui sont de bons éléments. Ça, je l'ai compris après.
Oui, parce que vous avez beaucoup lu, beaucoup étudié là-dessus.
C'est ça.
Et Pierre, votre mari, vous a certainement beaucoup aidé aussi.
Heureusement qu'il était là. Vraiment, heureusement qu'il était là, parce que c'est lui qui m'a donné la force de faire valoir mes droits.
Et d'ailleurs, vous avez eu gain de cause.
J'ai eu gain de cause. Et c'est ce qui a permis ma réhabilitation aussi. Et que ce que j'ai vécu ait un sens, en fait. Il fallait trouver un sens à ça, et c'est pour ça que quand on me parle de cette période, c'était une mauvaise période évidemment, mais c'est une période qui a été quand même riche pour moi, parce que ça m'a permis de mieux me connaître et de trouver des ressources en fait. Et d'où
Et les ressources, c'est donc créer.
C'est ça.
Alors voilà, c'était quelque chose qui était en vous depuis très très longtemps, et là... Grâce à ça, vous avez pu faire des créations de bijoux, des créations d'objets, et vous avez eu envie d'ouvrir cette boutique avec des vêtements qui sont complètement originaux. Est-ce qu'ils sont tous créés par cette styliste Fauvet Nacteau, ou il y a plein d'origines différentes ?
Non, il y a des origines très, très différentes, notamment une créatrice qui réalise des étoles en laine mérinos et soie, qui vient de Lettonie.
Ça doit être très cher.
Non, en fait, parce que j'ai une politique, entre guillemets, c'est de proposer des créations uniques, artisanales, à des prix raisonnables, pour que chacun puisse se faire plaisir, et que ce ne soit pas réservé à une élite, entre guillemets.
Donc c'est tout le monde gagnant-gagnant.
Voilà.
C'est-à-dire le créateur, qui est payé à sa juste valeur.
C'est ça.
Le client qui, lui, va avoir une pièce originale pour un prix correct.
C'est
et puis vous, au passage, bien sûr, parce que vous travaillez.
C'est ça. Et pour équilibrer, en fait, cette activité de vente de choses artisanales, je propose du prêt-à-porter classique, on va dire. Pas dans le style, mais dans la forme. Donc voilà, j'ai des fournisseurs. Par contre, ma manière de travailler avec eux, c'est vraiment de picorer, en fait, chez eux, les pièces atypiques, soit sur les motifs, soit sur les formes, soit sur les tissus. Je propose des choses très, très décalées. Voilà, c'est comme ça que je conçois la mode, en fait.
Je vous ai rencontré, Michel Célestin, grâce à un défilé de mode qui a eu lieu en octobre 2021 et qui était complètement extraordinaire. Alors moi, je ne suis pas une grande habituée des défilés de mode, mais là, c'était un défilé qui s'appelait No Genre. Ça veut dire que c'était des mannequins qui étaient homme ou femme, mais qui portait des vêtements, comme vous le disiez à l'instant, décalés, c'est-à-dire que des costumes très masculins pouvaient être avec un drapé un peu soyeux autour du cou, une espèce de petite chose qui ressemblait vaguement à une jupe par-dessus un pantalon. Et c'était beau, et c'était lumineux, et c'était chatoyant. J'ai eu envie d'aller voir le second défilé. Alors celui-ci avait lieu à l'eau poisson, au Havre. Il y a eu un second défilé qui a été organisé avec d'autres vêtements à la Transat Jacques Vabre. Et c'était un moment d'exception. Et je voulais vous en remercier parce que on avait l'impression d'être dans les grands défilés parisiens.
Oui, j'en suis encore toute émue, toute étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à cet accueil. Vraiment pas du tout.
Donc, il y avait du monde en plus.
Énormément de
une
monde.
Une quinzaine de mannequins.
C'est ça.
Bénévoles.
Bénévoles.
Amateurs. Et qui avaient un professionnalisme. Bon, vous les avez choisis. Alors, comment vous les avez choisis, ces mannequins ?
Alors, je les ai, parce qu'on va employer les termes professionnels, je les ai castés, parce que j'ai donc organisé une espèce de casting, en fait. Et je les ai castés, mais vraiment partout et n'importe où.
Donc, sur les réseaux sociaux,
dans la rue, dans les bars.
Bon, vous avez un goût, ils sont tous magnifiques, garçons et filles.
C'est ça, oh là là. C'est ça. C'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des profils vraiment atypiques en fait, au Havre. Et c'est quand j'étais dans cette démarche en fait, de recherche que là, en fait, je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens qui ont du style au Havre. En fait,
est-ce qu'il y a un site pour voir ces vêtements sur Internet ?
Oui, en fait, vous pouvez les découvrir sur le site de Fauvette Nacto. Donc, le nom de sa marque, ce sont les hommes de Fauvette. Vous pouvez aussi venir à la boutique, pourquoi pas,
c'est vrai.
Voir les découvrir.
C'est vrai qu'il voilà, y a certaines pièces
qui sont visibles voilà, à la boutique au Havre.
Alors, moi, je vous propose d'écouter un premier morceau de musique qui va nous dévoiler une autre facette de ce que vous êtes, Michel Célestin. Et puis, juste après, eh bien, on va savoir pourquoi vous nous avez apporté ce petit miroir. Et là, c'est vous qui chantez.
C'est ça. C'est moi.
Et vous chantez avec ?
Donc je chante dans un atelier au CEM, donc le Centre d'éducation musicale au Havre. Donc c'est une nouvelle expérience pour moi, donc voilà, de m'adonner au chant dans ce petit groupe.
Alors évidemment, on a reconnu « Toi, toi, mon toi » de Elie Medeiros. Pourquoi vous avez choisi cette chanson-là ?
Alors, Elie Medeiros, c'est une artiste que j'adorais quand j'étais adolescente. L'adolescence, pour moi, était une période très, très, très compliquée.
Qu'est-ce qui était compliqué ?
Un environnement familial très difficile. Je me suis vraiment réfugiée dans la musique à cette période, en fait. Et ce morceau, je me le passais vraiment en boucle tout le temps. Et j'avais à cœur, en fait, de le proposer dans le cadre de mon atelier. Et ce qui était drôle, c'est
dans
que...
Dans le cadre du CEM, donc.
Du CEM, voilà, tout à fait. Et donc, tout le monde était d'accord, sauf le prof. Il n'était pas trop chaud. Et
Frandol.
Frandol,
le
voilà.
Chanteur, guitariste.
C'est ça, des Roadrunners, ouais. Et donc, il n'était pas très chaud. Et puis, finalement, il a cédé. on l'a interprété, réinterprété, en fait. Et pas mécontente de ce que ça donne. Et en fait, pour moi, c'était important de vous le proposer. Parce que maintenant, je le chante dans un groupe. Chanter, ça m'a donné énormément confiance en moi, en fait. Maintenant, je me sens vraiment libre, grandie et ouverte à plein d'expériences. Et c'était intéressant de faire ce lien entre Elie Medeiros, que j'écoutais quand j'étais pas bien du tout, et en pleine adolescence compliquée, forcément avec zéro confiance en moi, forcément.
Et donc là, vous étiez aussi jolie que vous êtes aujourd'hui, j'imagine. Vous n'êtes pas devenue encore plus jolie à l'aube de la cinquantaine. Donc du coup, on est toujours étonné quand on voit une jeune fille, une femme qui est comme ça aussi lumineuse, avec un ravissant visage, grande, mince, enfin, et qui n'est pas sûre d'elle.
Ben en fait,
on peut pas y croire.
Entre ce qu'on laisse paraître et ce qu'on est vraiment à l'intérieur, des fois le fossé est très grand. Moi, en fait, j'ai toujours pris soin de mon apparence. En fait, j'aime la mode depuis toujours, j'ai l'impression. Et donc, c'était une manière, parce que le vêtement, c'est un message aussi. Et c'était une manière aussi de bien brouiller les pistes, en fait, en étant toujours bien apprêtée, toujours le sourire. Mais bon, voilà, ça cachait vraiment. C'est pour ça que l'expression « l'habit ne fait pas le moine », elle est très vraie.
L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. On peut rajouter ça derrière.
Oui.
En tout cas, on se sent un peu plus sûr de soi quand on a de beaux vêtements, quand on se sent bien dans ses fringues.
Oui, ça aide. Ça aide. Mais je pense que dans mon parcours, c'est plus la réalisation de choses, la création en fait, qui m'a vraiment... Mais s'habiller, c'est créer aussi. C'est, comment dire, c'est ce qu'on
choisir
appelle le stylisme en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est créer aussi. Moi, comme je disais, je manquais énormément de confiance en moi. Et quand on me disait, Michel, j'aime trop ton style, etc., ça me faisait du bien.
C'était... Ça vous surprenait? Non, vous saviez quand même que vous aviez du style.
Disons que j'avais confiance en mes goûts, mais c'est vrai que de l'entendre des autres, en fait, ça m'aidait quand même. Ouais, ça m'aidait.
C'est ce qui justifie le choix de ce premier objet que vous avez apporté, c'est ce petit miroir très symbolique. C'est-à-dire, quand vous vous regardez dans ce miroir...
Maintenant, oui.
Qu'est-ce que vous vous dites?
Alors maintenant, je suis fière de ce que je suis. Voilà, ça n'a pas été toujours le cas, parce que je mettais trop d'importance à la manière dont j'étais perçue par les autres. Je vivais un peu à travers les autres et je cherchais toujours à être validée, en fait, par les autres.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé?
C'est toutes les expériences, en fait. C'est toutes mes expériences. Je vous parlais ce passage-là dans ma vie où ça a été très, très compliqué. Ce passage de harcèlement où ça a été vraiment très, très compliqué. Et puis j'ai découvert la création. Et par la création, en fait, j'ai gagné de l'estime de moi. Il y a eu ce procès aussi qui a été gagné. Ça a été très très important dans ma réhabilitation.
Et oui, vous avez été réhabilité.
Voilà, ça a été très important. Même si on y laisse toujours des plumes, attention, on y laisse toujours des plumes. Mais par contre, on a des antennes après. On a des antennes. Mais c'est la création vraiment, parce que créer, ça porte tellement sur tellement de plans en fait.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
Voilà. Et moi j'invite vraiment tout le monde en fait à chercher la part de créativité qu'il a en lui, parce qu'on en a tous. Souvent j'entends « Oh mais moi je sais rien faire ». Non, je pense
ça, c'est une croyance.
C'est une croyance. Donc
c'est
vraiment, pour moi ça a été salvateur.
Tout le monde n'est pas artiste, mais tout le monde est capable de créer.
De créer, tout à fait.
Et des fois, on a besoin d'un guide, on a besoin de... Alors, on appelle ça des tutos aujourd'hui.
Oui.
Il y en a sur Internet. Il y a aussi des profs qui vous emmènent vers différentes pistes que vous n'aviez même pas soupçonnées au départ.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est vraiment... Et l'art, en général, je trouve que c'est tellement salvateur pour beaucoup de monde. Et vraiment, j'invite vraiment les gens à... En tous les cas, moi, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé et ça fait ce que je suis maintenant, en fait. une femme complètement épanouie, qui n'a plus peur et qui est un peu plus sûre d'elle, même si j'ai encore beaucoup de travail. Mais...
On va écouter un deuxième morceau de musique, Michel Célestin, que vous avez choisi. Il s'agit là de Ellie Medeiros qui chante elle-même sa chanson, « Toi, toi, mon toi ». Et puis, juste après, eh bien, vous allez nous parler de cette photo où il y a beaucoup de monde.
Toi, toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi.
C'est Michel Célestin qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Michel Célestin a une boutique au Havre qui s'appelle Tikeli et je l'ai rencontré suite à ce défilé de mode. Alors après, évidemment, je suis allée faire un tour dans la boutique. J'ai vu des très chouettes créations. J'ai vu des vêtements qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Comment vous choisissez votre collection, Michel ?
Au feeling, vraiment.
Des choses qui vous vont à vous forcément ou qui
pas forcément. Tout ne me va pas. Parfois, c'est décevant d'ailleurs.
Vous avez un peu la taille mannequin quand même.
Non. Je cache bien mon jeu.
Ah, alors du coup, vous pouvez nous aider quand on n'a pas la taille mannequin non plus à trouver un vêtement qui ait de la personnalité et qui soit complètement adapté à notre morphologie.
Mais complètement, complètement. Moi, je ne souhaite pas. Je souhaite que la mode, en fait, s'adapte aux personnes et pas le contraire. Pour moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que les gens portent des choses dans lesquelles ils se sentent bien, déjà, que ce soit confortable, déjà. Et comment dire, mode ne veut pas dire souffrance. Moi, je vois beaucoup de gens qui, j'ai l'impression qu'ils souffrent parce qu'ils portent des choses qui, dans lesquelles on sent qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Mais comme c'est la mode, en fait, donc c'est de la contrainte. Donc moi, non. Moi, ma manière de m'habiller a évolué, forcément. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'aimais bien montrer mes formes, etc. Et puis, je suis devenue maman, j'ai eu des enfants, mon corps a changé. Et j'étais toujours aussi passionnée par les vêtements. Et j'ai réussi à trouver des vêtements dans lesquels j'étais beaucoup plus à l'aise. Et puis qui restaient quand même... assez sympa. Moi, j'aime bien la mode, j'aime bien tout ce qui est un peu bohème chic, chic minimaliste. Voilà, j'aime beaucoup ces formes-là. Et donc, j'invite vraiment les personnes, ne pas se laisser dicter par les dictates de la mode et de vraiment s'écouter, de pas... trop écouter les autres aussi, ça te va, ça te va pas, faut vraiment sortir de ça. Et j'accompagne en fait mes clientes à sortir de leur zone de confort. Parce que souvent on va vers des choses qu'on a l'habitude de porter, des couleurs qu'on a l'habitude de porter, on prend pas trop de risques. Et moi j'aime bien les inviter à même essayer des choses qu'elle n'achèterait pas forcément.
Je crois que je vais venir essayer des choses justement que j'ai pas l'habitude de porter.
C'est ça.
Ou vous allez me sortir un cintre et je vais dire ah ben non, ça je crois pas. Ouais. Et en fait, je vais l'enfiler peut-être en étant très étonnée.
C'est ça, des fois il y a de belles surprises en fait. de se voir dans quelque chose de complètement différent. Parfois, ça aide à changer le regard aussi qu'on a sur soi.
En fait, c'est surtout ça l'objectif, finalement.
Ouais, c'est ça. Hein?
Moi, c'est changer le regard qu'on a sur soi.
C'est ça.
Être à la mode, être sapé, etc. Bon, oui, ok. Mais finalement, se sentir tellement bien que du coup, on va avoir une autre relation avec les autres.
C'est ça, mais complètement. Et même par rapport à la posture du corps, en fait. Quand on porte quelque chose qui nous va, dans lequel on est à l'aise, on n'a pas la même posture, en fait. On lève plus la tête, on est plus... Et je sens, en fait, quand les femmes viennent essayer des vêtements, c'est marrant à voir, en fait, que la posture du corps change.
Ah oui, vous avez observé ça ?
Oui, souvent, en fait. Ouais, très, très souvent. Et quand on se sent belle, en fait, on n'a pas la même posture.
Bien sûr.
Que quand on subit, des fois, nos vêtements.
Bien sûr.
Quelque part. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce que je fais. C'est pour ça que j'aime pas m'appeler commerçante. J'aime pas du tout ce terme. Même si, dans les faits, c'est
habilleuse.
Ça. Voilà.
Ce serait mieux.
Voilà. Il faudrait peut-être, je sais pas, que j'invente un terme. Mais en tous les cas, je suis passionnée de mode et j'aime transmettre, en fait.
Passionnée de mode, mais justement pour aller au-delà, pour accompagner les gens au-delà de ce qu'ils sont, pour qu'ils se perçoivent différemment.
C'est ça. Parce que le vêtement est, je considère, un message de ce qu'on est à l'intérieur. Quand on veut passer inaperçu, souvent on va porter des vêtements qui vont faire qu'on ne va pas se retourner sur vous. Donc la mode est un... Le vêtement est un message. Et quand on est mieux à l'intérieur, ça se voit dans ce qu'on porte.
Vous nous avez apporté cette photo.
Ouais.
Cette photo, c'est votre famille avec vos frères, sœurs et votre maman.
C'est ça.
Et on ne va pas détailler forcément toutes les personnes qui sont sur cette photo, mais par contre, on va parler de Max.
Oui, Max. Max, c'est mon frère aîné.
Il est au centre de l'image.
Il est au centre de l'image. C'est mon frère aîné que j'ai perdu en novembre 2020. Mon frère a été assassiné au Havre. Et mon frère, c'est toute ma force, en fait. C'est, comment dire, celui qui n'a jamais douté de moi, qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours portée, malgré ses difficultés. Mon frère était en très grande fragilité sociale et psychologique, mais il a toujours cru en moi. Et voilà, malgré... c'est lui qui me... Comment dire, voilà, j'ai un côté... très spirituel, et mon frère me porte depuis son décès. Je me sens vraiment, et je pense que si j'arrive à me dépasser encore plus qu'avant, c'est lui, en fait, c'est grâce à lui.
Pour lui faire honneur.
Ouais, carrément. Ouais, en fait, je me sens soutenue de là-haut. Ouais.
De là où il est.
C'est ça.
Il veille sur vous.
C'est ça.
Il veillait déjà sur vous quand il était sur cette planète.
Tout à fait.
Et là...
Là, d'autant plus. Donc je sens sa présence tout le temps, en fait.
Michel Célestin, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invité. Nous arrivons au terme de cette émission Portrait. Peut-être que nous pouvons dédier cette émission à quelqu'un.
Alors, j'ai plusieurs personnes en tête, mais... Peut-être que je dédierai cette émission à ma petite famille, du coup.
À vos quatre enfants.
Mes quatre enfants qui me donnent tellement d'amour, en fait, au quotidien. Mon compagnon, Pierre, sans lui, je pense que je n'aurais pas accompli autant de choses aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un de bienveillant et qui est d'un grand soutien au quotidien.
On n'a pas eu le temps d'évoquer que c'était un des créateurs du Hangar Zéro.
Tout à fait.
Mais voilà, on l'a dit à l'antenne. Bonne route, Michel.
Merci beaucoup de votre invitation.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view.